environnement, humour et jeunesse, c'est la règle de trois de Laure Noilla. Là où écolo est un gros mot pour certains, le terme environnement passe encore. Étiquetée Tati Daniel de l'écologie à cause ou plutôt grâce à son franc-parler, cette journaliste environnementale à Libération pendant 15 ans et aux 1522 articles sait de quoi elle parle.
Oui.
Auteure, chroniqueuse et réalisatrice notamment du documentaire Après-demain avec Cyril Dion, Laure Noilla a enquêté sur les sécheresses et les inondations à travers le monde. Pour elle, environnement rime rarement avec bonne nouvelle.
En attendant, il y a eu plus de 1200 milliards de dollars de dividendes versés aux actionnaires dans le monde en 2017. Qu'est-ce qu'ils veulent les actionnaires? C'est pas vraiment changer le monde, c'est de l'argent.
Les ingrédients de sa recette verte, forcément bio et radicale, de l'action locale, du collectif et moins de consommation, pour assaisonner une pincée d'humour. Elle en a, tendance humour noir, Bridget Kyoto, la première youtubeuse collapso de toute l'histoire de l'humanité, c'est elle.
Coupe du monde ou fin du monde, c'est pareil finalement. L'important, c'est de participer.
Son nouveau livre, titre évocateur, Comment rester écolo sans finir dépressif, a le goût et la couleur de l'humour, mais aussi le sérieux des enjeux de société. Quand elle écrit pour l'écolo radical que je suis, le coronavirus est mon ami, on rit jaune et vert. L'éco-anxiété, mal liée aux changements climatiques et environnementaux, existe. Laure Noilla l'a ressenti, comme Nicolas Hulot, Cyril Dion ou Claire Nouvian, qui témoignent dans son livre, et là, fini de rire. D'après Laure Noilla, la jeunesse d'aujourd'hui oscille entre mode consumériste et combat écolo et n'accepte pas encore l'idée du no futur. Figure de proue, Greta Thunberg, tombée en dépression à 11 ans, est toujours debout, criant au monde qu'elle ne veut pas de son faux espoir.
Politicians' job is to win elections and get votes, not having radical climate politics.
Dans la jeunesse de Laure Noilla, personne ne lui a appris les limites. Il faut maintenant que sa génération de quarantenaires renonce à ses rêves d'enfant pour y gâter et le monde avec.
Voilà, Laure Noilla.
C'est complètement ça.
Bon, pas tant mieux. Alors, je demande à votre livre, Comment rester écolo sans finir dépressif. Vous parlez de burn-out bio. En quoi l'écologie, finalement, rend-elle dépressive?
Vous écoutez les infos, vous regardez un petit peu les nouvelles.
Ça m'arrive.
Bon, écoutez, en fait, on vit maintenant dans un décor assez anxiogène. Alors, vous allez me dire, oui, mais l'économie est anxiogène. La politique, parfois, telle qu'elle est traitée aujourd'hui, peut être aussi anxiogène. Mais toutes les nouvelles qui nous accablent sont assez terrifiantes. Enfin, je veux dire, il fait 38 degrés aujourd'hui en Sibérie. Le pergélisol, enfin, les sols gelés là-bas sont en train de fondre. Ils sont bourrés de matière organique. Il y aura peut-être une bombe climatique sous forme de méthane, etc. Les mers sont en train de se vider des poissons mais de se remplir de plastique. Bref, où qu'on regarde, et moi je sais que j'ai bien beaucoup regardé puisque chroniqueuse à Libé, journaliste à Libé pendant 15 ans quotidiennement à la page Terre, je devais relayer les mauvaises nouvelles et il y en avait très peu de bonnes. Donc cerné comme ça par les mauvaises nouvelles, c'est faut avoir un estomac super bien accroché pour garder la patate, quoi. En tout cas, regardez le monde tel qu'il est. Je parle des conditions de vie sur Terre qui sont en train de basculer. Elles ont été stables pendant 10 000 ans. Elles sont en train de basculer, de se modifier. Elles nous ont permis de sortir de notre grotte néolithique et d'aller jusque sur la Lune. Et aujourd'hui, on est en train de vivre un changement vraiment de paradigme. Ça bouge, ça change. Et on n'est pas sûr que nos sociétés humaines ultra complexes vont pouvoir s'adapter à ça. Donc moi, ça me fout les boules. Mais je ne suis pas la seule.
Pas que vous.
Voilà, j'aurais préféré être de la génération de mes parents pour lesquels il n'y avait absolument aucun problème.
Vous pensez d'ailleurs que c'est un mal qui va, non pas se généraliser, mais s'étendre à beaucoup d'individus partout dans le monde?
Alors, je ne le sais pas, bien sûr, bien malin, on me demande souvent est-ce que l'éco-anxiété c'est le mal du siècle? J'en sais rien, le mal du dos c'était déjà le mal du siècle il y a 20 ans, donc maintenant est-ce que c'est l'éco-anxiété? Je ne sais pas. Ce qui est sûr, c'est qu'énormément de gens ultra sensibles.
Et auprès des plus jeunes notamment.
Et qui sont eux, évidemment, très sensibles aux questions de nature, d'animaux, etc. Bien sûr, tous les gens ultra sensibles ne peuvent plus passer à côté de la nouvelle. C'est-à-dire que, alors, sensibles ou alors, qui ont le temps de s'en préoccuper. Parce que quand on est avec la fin du mois, la fin du monde, on attendra. Voilà. Mais ça va impacter un petit peu tout le monde du fait que les choses sont en train de changer. Ouais. En tout cas, de toute façon, autant en prévenir. Et donc, s'il y a une éco-anxiété qui se révèle être une espèce d'épidémie psychique pour l'humanité entière, autant prévenir et autant préparer, se mettre un peu des outils dans les poches pour avancer, quoi.
Alors à propos de jeunesse, avec vous Sonia, on va voir qu'il y a 2 ans, on a découvert une jeune femme, une adolescente, Greta Thunberg. Thunberg. Et depuis, eh bien, on peut véritablement parler de génération Greta, en fait. Hein.
Oui, en Thaïlande, il y a Lily, qui a seulement 13 ans, est partie en guerre contre les sacs plastiques. Et elle a obtenu cette année une première victoire, l'interdiction totale des sacs plastiques dans les grandes surfaces thaïlandaises. Dans cette série de portraits réalisée cet été par la rédaction de Radio France, on part aussi à la rencontre de Madalena Kay, une artiste activiste de 26 ans. Elle a laissé tomber ses études d'architecture pour basculer dans le militantisme en 2016, par dépit et colère aussi sur le manque de participation de la jeunesse au référendum sur le Brexit. Depuis, elle a fait le tour de l'Europe. Elle est suivie par des dizaines de milliers de personnes sur les réseaux sociaux. En Ouganda, il y a Hilda Flavia Nakabouye, étudiante en économie de 23 ans. Alors, elle, son combat, c'est le lac Victoria, le plus grand des lacs d'Afrique, qui est lui aussi massivement pollué par le plastique. Hilda, qui aime rappeler que les Africains sont les premières victimes des gaz à effet de serre, alors qu'ils y contribuent le moins. Au Brésil, une jeune femme indigène, Célia Xacriaba, incarne aujourd'hui le combat pour la préservation de l'Amazonie. Alors, il y en a évidemment beaucoup hein, dans tout un tas de pays. Je ne peux pas toutes les citer. Mais alors, quand on regarde cette galerie de portraits, il y a une première chose qui frappe d'abord, c'est que ce sont toutes des jeunes femmes. Je ne sais pas si vous avez une explication à cela. Et puis, plus généralement, qu'est-ce qu'elles représentent pour vous, ces jeunes femmes? Est-ce qu'elles sont vraiment représentatives de cette génération? Ou alors, est-ce que ça nous fait plaisir de le penser aussi?
Non, il y a des garçons aussi. Et peut-être, il y a parmi les garçons un ingénieur qui va sauver le monde, parce que lui s'occupera, plutôt que de ramasser les déchets, de faire en sorte qu'ils n'existent pas. J'en sais rien. Mais en tout cas, une petite anecdote à propos de Greta Thunberg. Vous avez reçu ici il y a quelques mois Glenn Albrecht, ouais, qui avait écrit Les émotions de la Terre, et c'est lui qui était l'inventeur de la solastalgie, cet état d'anxiété, de nostalgie, de tristesse très profonde vis-à-vis d'un environnement qui change. Et la solastalgie a été inventée en 2003. Et qui c'est qui est né en janvier 2003? Eh ben Greta. Et je trouve que c'est super joli d'avoir et super triste en même temps d'avoir cette personne qui incarne si bien et si justement cette génération-là et ce mot-là qui a surgi au début des années 2000 et qui va peut-être nous accompagner très très longtemps. Oui, bonne nouvelle, et en même temps qu'est-ce que je ne les envie pas, quoi. Alors, parce qu'ils sont... Greta, elle a vachement changé depuis son discours à l'ONU où elle venait nous prendre par les tripes. Je veux que vous ayez peur, je m'en fous de vos idées, je m'en fous de vos compassions, je veux que vous ayez la trouille. Vachement d'émotions basses, la peur, la panique, la colère, l'énorme colère. Et je sais pas, la semaine dernière elle était à Bruxelles en train de bosser dans une commission. Enfin voilà, elle grandit, elle atténue les émotions basses pour mobiliser, parce que la peur et la colère sont aussi des émotions qui mobilisent. Et voilà, je trouve qu'elle incarne vachement bien, elle grandit super bien. Et voilà.
Et comment on trouve des solutions à tout ça? Comment on s'adapte maintenant, selon vous?
Alors, des solutions.
Au problème, est-ce qui arrive? Oui, ce qui est en train d'arriver, ce qu'on est en train de vivre.
C'est pas un scoop pour certains, mais pour certains, ça risque de faire mal. Il n'y a pas trop de solutions. Il y a une machine climatique qui est totalement emballée.
Donc, c'est plutôt une adaptation, en fait.
Et donc, il y a une adaptation. Alors, l'adaptation, le problème, c'est que, il faut d'énormes moyens et puis il faut arrêter d'avoir des idéologies contradictoires. On a une France plombée par une sécheresse. Il faut arrêter de bitumer les villes. Il faut mettre des arbres partout. Mais les arbres eux-mêmes sont les premières victimes du réchauffement. Je vis dans une forêt, la forêt d'Aude, pas loin d'ici, pas loin de Paris. Et beaucoup d'arbres sont secs, ne tiennent pas, tombent sur pied. Enfin, c'est catastrophique. Il faut atténuer au maximum, réduire nos besoins, renoncer à nos rêves d'enfants pourri gâté. C'est-à-dire, je veux tout de suite, maintenant, dans les grandes largeurs, comme avant, de la voiture, manger n'importe quoi qui vient de n'importe où, sous vide, balancer des sachets plastique partout. Enfin, je crois que c'est un vrai... Il y a les gestes, et puis il y a les changements radicaux, et puis il y a évidemment, après, la politique, s'engager, quoi.
Voilà, et s'engager aussi, ça peut commencer par lire aussi votre livre qui s'intitule « Comment rester écolo sans finir dépressif ». C'est publié chez Tana Édition. Merci beaucoup.